L'émission jazz d'Aligre FM. Sur Aligre FM avec Lionel Eskenazi.
Bonsoir, bienvenue sur Aligre FM pour l'émission Jazzland et j'ai le plaisir de recevoir deux musiciens exceptionnels, deux saxophonistes alto qui sont parmi les meilleurs qu'on ait en France. Il y en a d'autres bien sûr, mais c'est quand même, je suis vraiment très heureux de les recevoir. Tout d'abord, Pierrick Pedron, bonjour, bienvenue à Jazzland.
Eh bien, merci Lionel.
Alors Pierrick, vous avez, alors on va vous voir dans cette émission, vous avez un album qui,
non, je dis la ça, c'est dit.
Voilà, vous avez un album qui sort le 8 novembre et qui s'intitule The Shape of Jazz to Come, et donc
c'est
on
vrai.
Va bien sûr parler.
D'accord.
Donc le 8 novembre, il est sorti d'ailleurs.
Hier.
Ah oui, donc c'était hier. Et hier bonjour Baptiste Herbin, bienvenue à Jazzland.
Bonjour Lionel, salut Pierrick.
Salut Baptiste.
Et bien ravi de vous recevoir. Donc vous, votre album, il est sorti il y a un mois, c'était le 11 octobre. Et il s'intitule Django. Alors je me demande qui est ce Django, on va en parler tout à l'heure, parce que je ne sais pas, c'est un film de Tarantino.
Non, Corbucci.
Ah oui, c'est
au
ça.
Départ.
Alors, on va démarrer tout de suite en musique, et j'ai dégoté un morceau où vous jouez tous les deux ensemble. Et on va l'écouter, parce qu'il n'y en a pas 50 000, hein. Vous avez tous les deux très belles carrières, et vous connaissez très bien, mais vous n'avez pas eu l'occasion de jouer souvent ensemble, je parle pour un disque. Et donc, on va écouter « Round Midnight ». Et bien voilà, c'était Round Midnight avec nos amis Baptiste Herbin et Pierrick Pedron. Une super rythmique, vous allez nous dire leur nom.
Là, c'est Fred Nardin, ouais. Frédéric Nardin au piano, ouais. Mathias Salaman à la batterie Et puis Francesco Ciniglio, pardon, à la batterie.
À la batterie et à la main de sa contrebasse. Voilà. Et donc, il y a quatre saxophonistes. Donc, c'est un projet qui s'appelle Altesque, qui est sorti cette année 2024. Donc, on est encore dans l'actualité. Hein. Et donc, avec Altesque, parce que quatre saxophones alto, donc vous deux, plus Géraldine Laurent, plus John Gordon, qui est un saxophoniste américain. Et alors, donc ce projet, c'est votre initiative, Baptiste, et si j'ai bien compris, au départ, ça devait être un duo entre vous et John Gordon, et puis il y a deux autres saxophonistes français qu'on aime bien qui sont venus se rajouter, c'est ça ?
Bah, faut dire qu'on lui a mis une sacrée pression, hein, Baptiste, aussi. On voulait absolument être sur ce disque-là.
Oui, c'est ça, ils m'ont envoyé des chèques et tout.
Vous étiez un fan de John Gordon, Pierre.
Oh là là, depuis très longtemps.
Ouais. Ah ouais, parce qu'on ne le connaît pas très bien en France. En
c'est
fait,
vrai,
hein.
C'est vrai.
Pas assez en tous les cas.
Moi, je l'ai entendu au début des années 2000. Pour moi, c'était surréaliste. J'ai adoré découvrir John Gordon et j'adore. Je suis très, très fan de John Gordon. Pour moi, en tout cas, j'imagine aussi pour Baptiste, il est très, très important pour moi.
J'imagine que Géraldine l'aimait aussi. Donc
ouais,
voilà.
Moi, c'était l'émission de Claude Carrière sur une autre radio où j'avais découvert John Gordon. Et après, Pierrick m'en avait parlé. Et c'est vrai que c'est une approche du sax qui nous plaît parce qu'il y a plein de références, que ce soit Bird, c'était aussi un élève de Phil Woods, donc on entend
Phil. C'était son préféré.
C'est son préféré. Ouais. Et aussi, il va chercher des choses vraiment, je dirais, fraîches et originales qui n'appartiennent qu'à lui.
Exactement.
Et donc, en plus, c'est un monsieur extrêmement sympathique, très généreux, très posé, hyper calme. Et je me suis dit, bon, on va faire un hommage à Monk. Et puis, un peu au dernier moment, en fait, j'étais revenu d'une série de concerts avec un alto summit, comme on appelle ça dans le jargon, avec Katrina von Bülow, et puis qui est une Danoise. Et puis, un sax qui s'appelle Benjamin Herman, qui est quelqu'un de très connu chez lui aux Pays-Bas. À Amsterdam, qui est très, très sympa, que je salue d'ailleurs, parce qu'il a sa radio aussi locale. Et on avait fait cet alto summit. Lui, il fait ça tous les ans, avec des sax différents, mais plutôt trois sax alto à chaque fois. Tous les ans, au mois d'octobre, il invite, peut-être qu'il va t'inviter, Pierrick,
qu'il a
invité Géraldine l'année dernière. Et il veut à chaque fois qu'il y a aussi une fille dans l'équipe. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose.
Mais c'est génial. Et donc, puis c'était une idée de vous au départ. Et Xavier Felgerol a produit la chose, c'est ça ?
Ouais, j'ai demandé à Xavier, est-ce que tu pourrais m'aider ? C'était pas très cher parce que c'est un live.
Bah alors, du coup, moi j'ai assisté à l'enregistrement parce que j'étais au concert. Hein.
C'était
au Bal Blomet. Ouais. Donc, le Julien Basser, il faut le féliciter. Hein, l'ingé son. Quand les ingés son sont géniaux comme ça, parce que le gars, il n'avait pas beaucoup de secours là. Hein, il fallait qu'il soit bon tout de suite.
Il y a ça, et puis il y a aussi la salle, parce qu'on a enregistré dans l'après-midi, un petit peu le matin, l'après-midi, quand la salle est vide au Bal Blomet, ça résonne. Et on a pris les deux. On a fait.
Vous avez fait un petit mix des
prises en public
et du live.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis j'ai un peu créé le répertoire, mais aussi en fonction de Pierrick, je l'appelle, je dis qu'est-ce que tu voudrais jouer, Géraldine aussi.
Non mais le concert était magnifique et le disque il sonne super. Mais alors est-ce que vous avez eu d'autres dates par la suite ?
Non, on n'a pas eu d'autres
dates.
Du coup,
c'était un concert unique.
C'était un concert unique et puis c'est un concept que j'ai envie de lancer tous les deux ans, donc je vais le réenregistrer l'année prochaine pour 2026.
D'accord. On a un scoop pour Aligre FM, merci.
Voilà, pour un volume 2, j'ai dit à Xavier, on le fait avec d'autres invités éventuellement et puis toujours une saxophoniste parce que ça me tient à cœur de présenter aussi il y a des saxophonistes et femmes qui jouent extrêmement bien en Europe.
J'en connais une qui s'appelle Olga Melchenko
qui est en France,
je dis ça comme ça
bien sûr. J'étais en train de penser aussi à une saxophoniste allemande que j'ai découvert récemment.
Ah oui, Alexandra, qui joue avec...
Avec Yaron.
Non, Alexandra, elle joue avec Franck Tortillé.
Ah.
Sinon, il y a Tineke Postma.
Tineke Postma.
Hollandaise.
Magnifique. J'avais une autre idée, mais qui vit dans le WDR Big Band, mais son nom va me revenir.
Bon, écoute, on va passer à votre actualité brûlante, là. Hein. Donc, on va commencer par Baptiste avec cet album Django. Alors, c'est quand même un truc de dingue de reprendre le répertoire de Django sans guitare, sans violon, sans instrument harmonique et puis jouer en trio sax, contrebasse, batterie, ça laisse quand même un espace et un truc. Alors racontez-nous un petit peu ce projet.
Le projet, c'était que je voulais faire un trio. Bon, Pierrick, il a déjà fait des trios.
Ah oui, il y a un hommage à Monk, justement,
à Monk,
dont on se rappelle, et au Cure.
Et au Cure. Ouais. Je pense que c'est un... je pense que tu vas être d'accord avec moi, mon cher Pierrick, mais il y a ce passage vers le trio qui est, quand on est saxophoniste, qui est vraiment grisant. Et je dirais pas que c'est obligatoire, mais il y a quelque chose comme ça.
Oui,
que,
ben on pense à Rollins, évidemment.
On pense à Rollins, on pense à Kenny Garrett, ouais. On pense à Lee Konitz avec ouais. Motion, ouais. On pense à Ornette. Ornette, voilà. Ouais, ouais. Et puis et plein d'autres. C'est vrai que des fois, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas on n'a pas eu Cannonball en trio, ça aurait été bien aussi. Enfin, bref, je me suis dit, je vais faire un trio. Et je me suis dit, et ça remonte, c'est allé très vite. Hein, c'était en septembre 2024. J'en parle à mon agent, à Marie Séguré, que je salue d'ailleurs, et puis Matrice Production. Ok, c'est parti, on va faire ça après Symétrique. Et je me dis, mais je vais peut-être appeler un directeur artistique. C'est vrai que Pierrick et Laurent Courtaliac, notre ami qu'on salue bien bas aussi, Pierrick.
Ah bah oui, Laurent, formidable. Et
qui a bossé avec Laurent, enfin tu vas en parler tout à l'heure.
Ouais. Laurent... Oui, parce que attends, je fais une parenthèse, ouais. C'est que vous avez tous les deux le même directeur artistique.
Exactement.
Qui est Daniel Ivinec sur vos deux albums. Donc ouais. Là, ça fait un beau point commun aussi.
Exactement. Ouais. Et puis Laurent, on bosse ensemble, c'est une famille, quoi. On ouais. Est des copains, c'est le bebop, mais c'est aussi la musique, en général, voilà, c'est l'amour du jazz. Tout simplement, et de la musique et de la culture de jazzistique. Et il m'a dit, mais ah oui, appelle Daniel. Et on s'était déjà rencontrés, mais on n'avait jamais bossé ensemble. Bon, on va prendre un café. Il connaissait déjà toute ma discographie, c'était incroyable. Ah, il m'a dit, oui. Trio, faut que tu fasses des standards. Faut que tu fasses des standards. Tu as déjà fait assez de compos, tu vois. Sur tes, j'avais fait 5 albums déjà. Je bon, d'accord. Et en fait, 3 jours après, il me rappelle, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas Django Reinhardt en trio? Je suis, ah ouais? Bah ouais, parce qu'en ce moment, tu joues beaucoup avec les Manouches. Je te vois avec Rocky Gresset, avec tous les copains, là, dans le milieu du secteur Manouche, plus parisien. Je me suis dit, bon, ok, je vais me lancer là-dedans. Et puis en fait, le projet, il est parti comme ça assez rapidement.
Hein. Bah écoute, on va en écouter tout de suite un extrait. J'ai choisi pour démarrer Troublant Boléro, qui est une composition de Django, donc ça tombe bien.
Thank you.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
Eh bien, nous sommes toujours dans Jazzland avec nos deux invités, Pierrick Pédron et Baptiste Herbin, qu'on vient d'entendre à l'instant. Donc, ce troublant boléro, une superbe composition de Django, parce que dans cet album, il y a des compositions de Django, il y a aussi des morceaux, des standards que Django reprenait, comme Night and Day ou des choses comme ça. Moi, j'ai voulu privilégier une composition de Django, puis il y a une composition de vous, Baptiste, ou personnelle, hein, qu'on va écouter tout à l'heure. Et puis un djangologie un petit peu...
Herbinologué,
j'adore cette expression. Djangologie, herbinologué, il fallait le trouver ça. Ouais. Mais on le reconnaît quand même.
Bah,
on
djangologie. Herbinologie, ouais. Ça pourrait être marrant, ça.
Ah, herbinologie. Ouais. Ouais. Alors, il y a assez peu de saxophonistes qui se sont lancés dans la musique de Django. Alors, il y a eu un disque de James Carter... N'en parlons pas, hein, c'est pas faux. Non, mais n'en parlons pas. D'abord, ça fait longtemps.
J'ai fait la jam avec lui. J'ai fait la jam, d'être clair.
Non, mais c'est pour moi, c'est pas une superbe réussite cet album. Mais bon, après tout.
Il y a ce qu'on en veut.
C'est un saxophoniste extraordinaire.
Ouais, j'ai fait la jam avec lui il y a trois semaines, là, Clermont-Ferrand. Ouais. C'était extraordinaire.
Mais c'est un musicien génial. Mais après, ses disques sont pas toujours à la hauteur de son talent. Mais ça arrive souvent chez les Américains. C'est assez dommage d'ailleurs. Et puis, il y a notre ami Frank Wolf, qui est un type absolument, d'abord, super musicien et un type adorable et très sympathique, qui, lui, évidemment, est le saxophoniste de Birelli depuis 25 ans. Alors, il a forcément joué la musique de Django, bien sûr.
Puis, il y a Jean-Paul Adam aussi, qui fait pas mal de manouches. Et Pierrick, je l'ai jamais dit, mais je l'ai découvert sur un disque de Sammy Dossa.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Ah ouais, je ne savais pas. D'accord.
J'écoute comme ça, parce que, en fait, j'ai découvert ce monde-là. Donc, on parle de Intel, les frères Rosenberg, enfin tous les artistes d'ailleurs qui sont tous formidables. Et puis, Sammy Dossa, il y a ce disque-là que j'ai beaucoup aimé. Là, à un moment, il y a Pierrick qui joue. Je fais non, c'est pas possible, stopper les machines. On est tous un peu passés dans le côté. Non,
alors, Pierrick adore la viande rouge parce que je le connais bien. il va passer au hérisson bientôt.
Tu veux me griller.
Et c'est bon d'ailleurs. Et c'est très bon.
Au hérisson grillé.
C'est ça. Et je peux dire que c'est très bon. Bah, moi, j'ai bien apprécié.
C'est vrai, mais toi aussi, du coup, tu fréquentes pas mal les manouches.
Je leur rends hommage avec ce disque et d'ailleurs les manouches c'est en France, tous les Roms d'Europe, là j'étais en Roumanie avec des tziganes, enfin des Roms donc, qui m'ont invité pour un mariage, c'était juste incroyable et donc c'est aussi ça, ce disque c'est un hommage aussi pour cette communauté qui est tant décriée et en fait donc, comme dans toutes les communautés et partout il y a des gens très bien et des gens moins bien.
Bien sûr.
C'est vraiment un peuple formidable et je me représente dans ce milieu complètement, je suis à l'aise, vraiment complètement.
Alors, il y a une idée absolument géniale dans ce disque. Alors, je ne sais pas si elle vient de vous, Baptiste, ou si elle vient de Daniel Ivinec. C'est de démarrer ce disque par un morceau qui s'appelle Django, qui donc n'est pas un morceau de Django, mais qui est un standard de John Lewis. Mmh. Et c'était une idée de qui ?
Ah, ça, c'est une idée de Daniel de commencer avec Django. Moi, au début, je n'étais pas forcément...
En fait, je trouve que c'est une idée géniale, En plus, il est magnifique, ce morceau.
C'est
un chef-d'œuvre.
C'était une très bonne idée. Mais au tout début, je voulais commencer justement avec Troublant Boléro.
Ah ouais, Max aurait fait un bon début.
Celui qu'on vient d'entendre. Parce que ça met un peu dans l'ambiance. On commence les concerts plutôt avec celui-là. Et c'est vrai que le Django. Là, c'est Daniel, il m'a dit il faut que tu reprennes ça dans un premier temps. Et en plus, en trio, ça sonne vraiment bien parce que c'est John Lewis. Normalement, il fait une intro, piano, oui, etc. Ouais. Je l'avais déjà joué. En fait, c'est un morceau qu'on retrouve aussi dans le milieu, dans le domaine manouche. Il est joué
Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il l'a composé à la mort de Django en 53.
C'est exactement ça. C'est un hommage.
Pour lui rendre hommage au moment où il est mort.
Exactement, exactement.
Parce qu'il faut dire à nos auditeurs et nos auditrices que Django était connu aux États-Unis, qu'il avait joué avec Duke Ellington, qu'il avait voyagé là-bas, et que c'était une star pas seulement dans le petit monde manouche parisien, mais qu'il était connu internationalement.
Oui, bien sûr,
et tous les musiciens de jazz américains, surtout les guitaristes, ils étaient tous raides dingues de Django.
Oui.
Alors, on sait, Baptiste, que vous adorez la musique brésilienne. C'est quand même un truc qui est très récurrent chez vous. Et notamment le choro. Si je prononce bien, on dit choro.
Oui, c'est le choro.
Alors, expliquez-nous brièvement ce que c'est que le choro. C'est la musique populaire, mais assez savante quand même. C'est un mélange des deux.
C'est la musique classique, en fait.
Ouais, c'est la musique classique.
C'est la
en même temps, c'est dans les balles et ça se danse.
Ça se danse pas forcément. Ah. C'est plus une musique de salon.
D'accord.
Il y a vraiment les clubs de choro à Rio. C'est une musique d'ailleurs qui vient de Rio et du Nord-Est, du Brésil. Donc, il y a vraiment une région spécifique. Et puis, c'est la musique classique brésilienne avec flûte, guitare, un peu de percussion. Et cavaquinho, ça c'est la petite guitare. Et c'est des compositeurs comme Pixinguinha, comme Irineu Jermaine qui ont composé. C'est vraiment c'est l'ancêtre du samba, quoi, en fait.
Alors vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous avez fait un choro dédié à Django. C'est donc une de vos compositions qui s'intitule Choro Django. Thank you.
FM avec Lionel Eskenazi.
Et alors, on vient d'entendre un morceau de Baptiste Herbin, bien sûr, tiré de l'album Django, Choro Django, qui est une composition de Baptiste Herbin. Et j'aurais aimé que Pierrick Pedron nous donne un peu son avis sur ce projet de Baptiste.
Bah, je trouve que ça le représente complètement. Et Daniel est très intelligent, d'ailleurs, parce qu'il sait exactement...
Daniel Ivinec.
Oui, Daniel Ivinec, notre producteur. Et il est très intelligent parce qu'il sait exactement quoi faire et quoi proposer pour mettre les musiciens en valeur. En l'occurrence, c'est vraiment bien qu'il y ait un petit éventail comme ça de la musique de Baptiste, parce que effectivement Baptiste c'est un mélange de plusieurs styles finalement. Il y a ses influences brésiliennes, c'est une évidence. Et il y a évidemment tout ce qu'il y a autour du jazz et puis Django maintenant. Donc je trouve ça vraiment bien vu, ce disque.
Et puis là, donc, il jouait du sax soprano. D'ailleurs, dans le morceau d'avant, il jouait aussi du sax soprano. Et alors, il joue super du soprano.
Alors, si on doit parler du phénomène Baptiste Herbin, c'est aussi possible. Rien ne m'étonne, en fait, de sa part. C'est-à-dire que je pense que même s'il pouvait maintenant, juste à côté de nous, là, souffler dans le casque, à côté... on serait tous sous la table.
Pour non, parce coup. Que vous, non. Vous avez joué un petit peu de soprano, mais vous le mettez de côté quand même.
Oui, non, c'est voilà. Pas... Oui, c'est, clairement, en fait, si je l'ai mis de côté, c'est parce que j'ai plutôt la flemme de le travailler. J'ai consacré tout mon travail sur l'alto.
Mais non, mais c'est magnifique.
Et je fais un peu de soprano, mais bon, beaucoup moins que Baptiste.
Alors, on a donné il y a quelques années, je fais partie de l'Académie du Jazz, on est 80 membres quand même, on a donné le prix Django Reinhardt à Baptiste Herbin. Mais c'était cette année qu'il aurait fallu lui donner. On s'est gouré un peu là.
Faudrait lui donner encore une fois.
Ça tombe. Non, on peut pas l'avoir deux fois le prix Django Reinhardt. Mais c'est vrai que ça aurait été marrant de faire un disque Django, d'avoir le prix Django. D'ailleurs,
bon, c'était il y a pas si longtemps.
Non, c'est vrai. Il y a quelques temps, Théo Secaldi avait fait un hommage aussi à Django.
Ah ouais.
Et j'avais essayé de faire de qu'il ait le prix. Mais bon, je suis pas tout seul à voter. On a été quelques-uns à dire, ah, ça serait génial que le prix de Django Reinhardt soit un hommage à Django. Et ben, par rapport à tout ce qu'elle dit, ça n'avait pas marché. Mais enfin bon, et vous aussi, vous l'avez eu, Pierrick, le prix de Django Reinhardt.
Oui, je l'ai eu. Ouais.
Donc on a deux prix de Django Reinhardt, c'est quand même impressionnant. Alors on va passer à l'album de Pierrick Pedron, mais juste avant, on va écouter encore un dernier morceau court, qui est le morceau qui termine le disque où Baptiste, vous jouez en solo, le morceau le plus connu de Django, qui est Nuage. Et alors, jouer en solo, d'ailleurs, je vous ai vu sur scène il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de moments où vous êtes tout seul, et c'est, j'ai l'impression que vous adorez ça, jouer en solo total comme ça.
J'aime beaucoup, à la manière un peu d'un pianiste aussi, le piano solo.
Ouais.
Et en fait, j'avais aussi une idée il n'y a pas longtemps, j'ai déjà commencé, je crois que j'en ai parlé encore à personne en France, donc c'est un scoop, faire un disque en solo.
Bah, c'est ce que je pensais, ouais.
Mais alors, j'ai commencé au Brésil, c'était l'année dernière. J'ai enregistré quelques trucs. J'avais enregistré quelques standards, dont Lush Life. J'avais enregistré un truc de Johnny Alf aussi, super compositeur brésilien. Mais j'ai mis un peu de côté parce que je veux faire... J'ai un projet en tête. Je vais m'arrêter là par rapport à ce projet parce qu'il ne faut pas non plus tout dévoiler. Mais je le mets de côté et je me suis dit, ce côté solo, je le garde aussi un petit peu. Enfin, je l'insère un petit peu comme ça dans ce projet sur Django.
D'accord. Maintenant, ça serait une superbe idée. Alors, vous avez fait le concert de sortie de disque au Sunside 3 soirs de suite. 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre. C'était blindé. Hein, j'y étais. C'était 3 soirs blindés. Bravo. Est-ce qu'il y a des dates là, qui viennent?
Alors, pas d'ici la fin de l'année, mais je peux vous... Alors, il faut que je regarde sur mon téléphone. Mais
On en reparlera tout à l'heure,
mais il y a des dates pour l'année prochaine, il y en a au moins 5-6.
Très bien, et je précise, parce qu'on ne l'a pas dit, que vous êtes accompagné de Sylvain Romano, mais remarquable contrebassiste, qui fait un boulot incroyable, parce qu'il n'y a pas de piano, donc il fait un boulot harmonique aussi. Ouais. Hein. Et puis, le grand Dédé Secarelli, deux mots sur Dédé quand même, 78 ans, qui est une légende vivante.
Légende vivante, et puis encore une énergie, une musicalité folle. Et en fait, c'était mes deux comparses. On a fait mon premier album en 2012, qui est sorti en 2013, Brothers Tune. Donc, en fait,
c'est la famille.
J'avais envie de revenir aux sources. Et puis, Dédé, je lui dois tout. Parce que moi, j'avais une résidence au Duc des Lombards en 2009-2010. Et je l'avais appelé parce que mon premier... Mon premier concert de jazz à Paris, c'était au Sunside en 2003. J'étais allé voir Stefano Di Battista en quartet. Il y avait Dédé. Et il m'avait fasciné, ce monsieur. Et puis, je me suis dit, bon, je vais l'appeler. Et quand je l'ai appelé, il est venu au Duc. On avait fait ce premier concert avec Pierre de Bettman au piano et puis et Sylvain. Et à la fin, il me dit, mais t'as pas de disque, c'est pas possible. Je dis, bah non. Et puis, il m'a propulsé. Mais le lendemain,
pour
il m'a
enregistré. Ouais,
deux
ouais.
jours après, on est allé chez le producteur. On a fait le premier disque.
Oh, génial.
Il me dit, ouais. Je prends pas d'argent. Enfin. Et puis, il a appelé tout le monde. Il m'a vraiment mis le pied
ouais,
à l'étrier.
C'est quelqu'un de très important, du coup.
Vraiment
ouais,
très
ouais,
important.
Ouais.
Et il est toujours là. Il est bon. Toujours présent et il m'aide toujours autant.
Non, enfin, mais c'était un bonheur de vous voir tous les trois parce que c'est vraiment un groupe très, très soudé. Il y a une superbe interaction entre vous. On va écouter donc un morceau où vous êtes tout seul. Mais voilà, je voulais finir sur le fameux nuage.
L'émission jazz d'Allegre FM.
Tous les samedis à
17h. Voilà, après avoir passé la première demi-heure avec notre ami Baptiste Herbin, on passe à un autre grand saxophoniste alto, Pierrick Pedron. Alors, 12e album tout de même.
Hein. C'est vrai.
Ça devient impressionnant là. Mmh. Alors ce disque-là, il est vraiment particulier parce que vous avez fait quelque chose que vous n'aviez encore jamais fait, c'est-à-dire de reproduire un album qui existait déjà avec 6 morceaux dans le même ordre, mais alors en le changeant, en gardant les thèmes, mais en le changeant complètement. Alors de qui s'agit-il ?
Bah, du grand saxophoniste Ornette Coleman. Voilà.
Et l'album, c'est The Shape of Jazz to Come.
Voilà, un album qui est sorti en 1959.
Et donc, qui était sans instrument harmonique, puisque Ornette Coleman jouait sans pianiste à cette époque-là,
ouais.
Mais il jouait avec un trompettiste qui était le grand Don Cherry.
Don Cherry, ouais.
Et donc, vous êtes quatre, mais il y a un pianiste. Et quel pianiste ? Vous allez nous le présenter, d'ailleurs ?
Bien sûr, c'est Karl-Henri Morisset, ouais. Voilà, avec qui j'ai la grande chance de jouer depuis maintenant plusieurs années. Et voilà, c'est un fantasme réalisé finalement, c'est de pouvoir d'avoir l'occasion d'enregistrer avec ce quartet avec qui je joue déjà depuis 8 ans maintenant.
Donc le contrebassiste,
Thomas Bramery,
bah oui,
voilà, qui n'est pas un inconnu.
Qui est là depuis vos tout débuts. Hein,
je... ouais, oui, bah, Thomas,
comme
il
deux
est...
frères un peu. Hein.
Oui, c'est vrai, on peut le dire, absolument. D'ailleurs, je lui ai même écrit un morceau à Thomas. Et Thomas et son épouse, pour être un peu plus précis, mais il était sur un album que j'ai enregistré à New York qui s'appelle Deep in a Dream avec Mulgrew Miller.
Ah oui, il était déjà
et
là.
Il était déjà là. Il habitait à New York d'ailleurs à cette époque-là.
À cette époque-là. Et puis alors le batteur, super.
Bah ouais,
batteur.
C'est Élie Martin Charrière, ouais ouais, qui est aussi un jeune voilà. Loup. Parisien,
disons enfin, que vous et Thomas, vous êtes un peu de la même génération et que Élie et Karl-Henri, c'est...
À peu près la même... Ouais, à quelques années près. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui... Karl-Henri est peut-être un peu plus âgé qu'Élie.
Oui, enfin, ils sont arrivés un peu ensemble. Ils étaient au conservatoire ensemble, parce que
moi,
je les ai connus, ils étaient dans la même classe au conservatoire.
Oui. Puis et moi, j'ai joué...
Ils m'avaient déjà impressionné. J'avais été à un concert comme ça de fin d'année, là... J'ai dit, oulala, ces deux-là, attention.
Oui, absolument. Mais c'est grâce à Ricardo Delfra, quand même. Hein, parce
oui,
que moi, je jouais dans le groupe de Ricardo Delfra, et c'est là que j'ai vraiment eu la possibilité, pour la première fois, de jouer avec Karl.
Alors, comment est venue cette idée? Est-ce qu'elle est de vous? Est-ce qu'elle est de Daniel Ivinec, votre directeur artistique?
Moi, j'aurais bien voulu qu'elle soit mon idée. Voilà, donc,
mais Daniel a toujours des excellentes idées en même temps.
J'espère qu'il nous écoute, Daniel. Bah oui, c'est mon idée. C'est une idée de Daniel, effectivement, parce que lui savait qu'on jouait beaucoup avec ce quartet-là. Parce que quand j'ai enregistré 50-50 à New York, je ne pouvais malheureusement pas avoir non plus les musiciens américains avec lesquels j'ai pu avoir la possibilité
c'est ça,
de jouer.
C'était difficile.
Ouais, et puis on avait plus ou moins prévu une petite tournée. Le Covid est arrivé. Après ça, tout s'était effondré. On a continuer ce répertoire-là avec les musiciens de mon quartet, dont on a parlé tout de suite. Et Daniel nous a vus un jour en concert à Paris. Et donc, il a remarqué qu'il y avait vraiment une cohésion avec ce quartet-là, qu'on s'entendait vraiment, vraiment bien et qu'on prenait tous des risques pas possibles.
Mais ça devient un vrai groupe, ça fait combien, 4 ans maintenant ?
8 ans !
Ah, oh là là, où
ouais,
je
ouais,
me trompe.
Ça fait 8 ans.
Ah oui,
ah, ouais, ouais,
ah oui, donc là, il y a une belle interaction,
oui,
évidemment. Oui.
Et puis, on se permet plein de choses. Quoi.
Oui, il y a beaucoup de liberté.
On prend beaucoup de liberté et c'est un petit peu ce que j'envisage, moi, dans le futur, c'est d'en prendre de plus en plus, d'ailleurs. À l'image, un petit peu, même si la comparaison est très difficile, en toute modestie, du grand Wayne Shorter avec son quartet. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup au niveau de cette liberté-là.
Ouais, bien sûr.
Daniel a eu ce soir-là, voilà, je pense que vous devriez enregistrer tous les quatre. Et j'ai eu une idée. Je pense à deux disques. On pourrait refaire carrément un disque d'Ornette Coleman. Et il était question aussi, c'était soit Ornette ou soit un disque de Dave Brubeck qui s'appelle Time Out.
D'accord.
On avait un petit peu échangé sur ces possibilités-là.
C'est vrai que Paul Desmond, c'est pas mal non plus. Hein.
Mais c'était très intéressant, mais je me sentais beaucoup plus proche d'Ornette. Même si, paradoxalement, il ne fait pas vraiment partie des saxophonistes que j'ai pu écouter le plus.
Si je puis me permettre, Pierrick, je vous connais bien depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on n'a jamais tellement parlé d'Ornette ensemble. On a parlé de plein de saxophonistes.
Oui, c'est vrai.
Et on a rarement parlé d'Ornette. On parle plus d'Éric Dolphy que d'Ornette, par exemple.
On parle plus d'une manière assez juste peut-être ou pas, je ne sais pas, mais de Charlie
Parce
Parker
que,
ou de Sonny
Stitt. Et peut-être ce qui vous intéresse plus chez Ornette, c'est ses compositions plus que le côté compositeur plus que le saxophoniste.
Tout m'intéresse chez Ornette.
D'accord.
Parce que j'apprends encore à le découvrir. Ce qui est intéressant chez Ornette, déjà, c'est qu'il a un jeu, il a une personnalité qui diffère totalement de ce qu'il y avait juste avant lui. C'est-à-dire qu'on passe vous vous rendez compte, The Shape of Just Who Come, c'est 59. Juste avant, il enregistre Something Else, qui est son premier disque en 1958. Et 3 ans avant, Charlie Parker était vivant.
Bah oui.
Voilà.
Ah non, mais là, on saute un grand pas, c'est sûr.
Exactement. Et 3 ans, qu'est-ce que c'est? C'est rien.
Mais est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que l'harmonodie?
Ah, c'est une bonne... Alors là... Je souhaiterais, mais c'est vraiment extrêmement compliqué à définir ce qu'est l'art mélodie.
C'est un terme qu'il a inventé. Hein.
Absolument, oui. C'est un terme qu'il a inventé, je crois, dans les années 70, mais qui met en relation un peu l'aspect psychologique et l'aspect physique, et tout ça orienté vers ce qu'il appelle, lui, l'unisson. Alors, c'est-à-dire que c'est une profondeur sur l'unisson qu'on retrouve beaucoup dans ses thèmes quand il joue avec Don Cherry ou quelque chose comme ça. Mais c'est, honnêtement, je vous le dis, c'est extrêmement complexe à définir ce qu'est l'art mélodie. Il y a eu c'est presque philosophique, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des thèses. Non,
mais il était très intellectuel, honnête. Il a étudié les philosophes, il a étudié le bouddhisme et plein de choses. Voilà,
remarque particulièrement, c'est l'aspect ultra mélodique, mais sur des accords qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il exploite au niveau de la mélodie, ce qui fait quelque chose. Nous, on a tendance à dire dans le jargon et dans le. Et tu me coupes il y a quelque chose d'assez presque injuste entre sa mélodie et des accords. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de out. Et ce que j'adore plus que tout chez Ornette, c'est cette dans la musique en général et dans l'improvisation, c'est la tension et la détente. Et lui, clairement, il vient du blues, comme Charlie Parker. C'est là-dessus justement qu'on les identifie. Et tous les deux, ils viennent de ce mouvement-là, de ce blues-là. Voilà.
Et on va écouter tout de suite un exemple en musique. Alors, la façon dont cette relecture d'Ornette Coleman, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est pas du copier-coller.
Non, c'est pas du copier.
Prend tous les morceaux dans l'ordre, mais en fait, c'est du Pierrick Pedron, c'est ça qui est intéressant.
Exactement.
Et alors, moi, c'est un de mes morceaux préférés, j'ai eu l'occasion de vous le dire, Pierrick. Il s'appelle « Eventually ».
Thank you.
93.1 sur la bande FM et sur le site internet d'Aligre FM.
On vient d'écouter Pierrick Pedron dans cet album The Chap of Jazz to Come, donc ce morceau Eventually. Et donc il a sur ce morceau, Pierrick a repris exactement le solo d'Ornette Coleman qu'il a relevé. Alors explique-nous un petit peu ça.
Oui, l'idée c'était quand même, c'est un gros clin d'œil à Ornette évidemment, mais même si c'est l'énergie et, du groupe qui le joue et qui l'interprète, mais je tenais absolument à marquer l'identité forte d'Ornette à travers ce disque-là. Et sur quelques plages de ce disque, notamment celui-ci, il y a le chorus d'Ornette Coleman, effectivement, que je joue à l'unisson, une partie du chorus, hein, une partie du solo, parce qu'il est assez long sur l'original, sur Eventually, donc, et on le joue à l'unisson avec Carl Henry. Voilà. En fait, c'est dans tous ces morceaux-là, c'est un petit peu comme presque un puzzle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même les arrangements de Laurent Courtaliac sont faits de telle manière à ce que...
Oui, alors il faut parler de Laurent.
Il a fait un travail énorme.
Oui, et ça fait deux albums hein, qui jouent.
Ça fait trois albums.
Trois albums. Ouais. Oui, c'est vrai.
Trois albums.
Donc à chaque fois, il harmonise tout ça.
Exactement. Ouais. En fait, c'est mon tailleur. Voilà. C'est mon tailleur, j'ai besoin d'un...
Your Taylor is rich.
Taylor is rich. J'ai besoin d'un beau costume. Je vais voir Barloyd, c'est son surnom.
Oui,
pardon.
Barloyd, ouais.
Laurent Courtaliac, et puis on commence à travailler tous les deux. C'est-à-dire que lui, il a tellement d'idées à la seconde, et il propose tellement de choses que... Après, je fais en fonction de mes goûts. Il y a des choses qu'il me propose et que je vais... pas accepté forcément, et d'autres où je vais me dire waouh, c'est fantastique ça, alors on va rester là-dessus, on va prendre cette voie-là, on va essayer de travailler sur ça, et c'est finalement c'est quand même, c'est, il est tellement gentil Laurent, et puis tellement doué en
oui,
plus,
puis en
que
plus c'est pas c'est... tellement non plus ce qu'il préfère Ornette Coleman, parce qu'on connaît, c'est un puits de science Laurent, mais il est très bebop
bah
quand
oui
même,
mais oui ouais. c'est vrai qu'il a cette réputation du clone, du gars qui a écouté Barry Harris, Bud voilà. Powell, c'est un petit peu la réputation qu'il a, évidemment, mais au final, c'est quand même quelqu'un de très, très ouvert,
oui,
quand on le connaît bien.
Et alors, les solos de Don Cherry, vous les avez réadaptés
Oui, exactement. Il y a des solos de Don Cherry que j'ai relevés également. Et donc, on a pris ses notes, les notes de son solo, sur, par exemple, sur 8 mesures de solo. Et on a harmonisé de manière à faire, sur un morceau, un bridge, quelque chose, une détente. Par exemple, il y a un morceau qui est très speed, très rapide. Et puis, à un moment donné, c'est toujours conçu sur le système de la tension et détente. Moi, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment.
Qui vous tient à cœur, ouais.
Et des fois, quand on a l'impression que ça va un peu trop loin et que c'est presque un peu trop free jazz, eh ben, je me dis que il faut une détente, il faut quelque chose qui apaise.
Non, mais ça, c'est très bien équilibré dans
son album. Et c'est ce qui m'intéresse vraiment, même quand j'entends un instrumentiste improviser dans un club de jazz. Et les moments où ça se barre un petit peu trop et que ça devient trop difficile, si le gars il a l'intelligence de revenir dans quelque chose de presque traditionnel ou de conventionnel, j'adore.
Alors, je voudrais l'avis de Baptiste Herbin sur le projet de son ami Pierrick.
Oh, bah là, moi, je l'ai entendu, parce que voilà, Laurent, c'est aussi un ami. C'est quelqu'un d'extraordinaire et d'érudit, surtout ça. Donc, il m'avait fait écouter, et très excité, comme ça. Oui, je viens de faire l'album de Pierrick. Alors, moi, j'ai écouté. Déjà, la première chose qui m'a frappé, c'est le son d'ensemble. Ça, c'est aussi Daniel, je pense aussi.
Oui, c'est chez Philippe Gaillot, faut le préciser.
Oui. Ah oui,
à Pompignan, qui est un endroit assez extraordinaire.
Hein. Je connais aussi Philippe.
J'avais enregistré un bien
magnifique Philippe.
C'est notre copain, puis aussi le grand copain de mon frère Bastien Herbin, qui est accordant de piano, qui officie chez lui de temps en temps. Que dire, c'est une prouesse. Bravo. C'est quoi que je t'ai pas encore dit parce que je l'ai écouté le disque. Tu me l'as donné il y a pas très longtemps quand on s'est croisé chez Sax Machine à Paris, là, le magasin de Sax, et on s'est échangé les disques. Et tu m'as filé un promo, donc je l'ai écouté. J'avais déjà écouté un bout chez Laurent, mais quand on est on est tous les deux, on discute, on n'est pas concentré. C'est déjà un exploit, déjà reprendre cette musique-là avec intelligence, refaire des arrangements, faire des choses qui n'ont rien à voir par rapport au disque original, je trouve, par moment, et tout en gardant son identité. Et en fait, là où je trouve qu'on a un point commun aussi, c'est qu'on a vraiment un truc avec Pierrick, là, sur le, pour le coup, avec Daniel, puisqu'on tous les deux, le même directeur artistique. Nos deux projets qui sortent quasiment en même temps, qui n'ont rien à voir du point de vue esthétique, mais il y a quand même un truc, c'est déjà... Bon, on fait du sax, ça c'est évident, mais il y a une direction.
Oui.
Il y a vraiment un projet. C'est pas forcément des compos, c'est des reprises, des hommages. Non, mais
c'est novateur en même temps.
C'est un hommage sans que ça soit quelque chose d'obséquieux.
Ce ne sont pas des hommages poussiéreux, et ce sont des disques très novateurs. Je voudrais, il faut qu'on avance, parce que l'heure tourne. Je voudrais que Pierrick, il y a les concerts de sortie de disques, donc 5 et 6 décembre au Sunside.
Oui.
Et puis il y a d'autres concerts qui suivent au mois de décembre.
Oui, alors il y a le, alors oui, effectivement, le 5 et 6 décembre, pardon, au Sunside, le 7 décembre au Jazz Club d'Auvers-sur-Oise, le 14 décembre à l'Ozon Jazz Club à Lurs, le 17 et le 18 décembre à Passerelle Saint-Brieuc, le, et puis voilà, après c'est en janvier.
Et après il y a plein de dates en 2025.
Oui,
c'est un, voilà, c'est un projet qui va beaucoup tourner et on est très heureux pour vous, Pierrick. Et Baptiste, vous avez des dates aussi à nous donner ?
Moi j'ai des dates, mais pas avec ce projet-là. Vous
D'accord.
voulez les dates du projet Django ?
Non,
plutôt.
Mais comme vous voulez.
Parce que là, je serai à Nice la semaine prochaine.
D'accord.
Là, j'ai juste les dates pour Django, mais je serai à Nice la semaine prochaine, en tout cas, à la
D'accord.
Trinquette le 15. Le lendemain, à la Cave Romagnon, on fera Django, et puis à Rempartage le dimanche. La semaine d'après, ça sera dans le sud-ouest. La semaine d'après, ça sera à Lille, notamment un concert exceptionnel, un hommage à Herbie Hancock. Enfin, je ne vais pas vous donner toutes
non,
les
non,
dates.
Non, il fait beaucoup de choses, Baptiste.
Ouais, mais
pour
Django,
il y a 2025.
De Django, la prochaine, c'est un peu dans longtemps, mais c'est le 4 février, à côté de Versailles. Au Chênay.
Mais c'est après-demain.
Oui, voilà, le 4 février au Chênay, le 7 mars à Saint-Rémy, le 3 mai à Limoux, le 7 juillet à Payon, le 9 juillet.
on va s'arrêter en juillet, Baptiste. Mais ouais. Super, mais on est content. Il faut qu'on avance. On va écouter, pour terminer, on va écouter Lonely Woman, qui est le grand tube d'Ornette.
Ah, je l'adore ce morceau. C'est mon morceau préféré.
Voilà, donc on écoute tout de suite Lonely Woman.